Bon, bah, tout d'abord, bonjour, merci d'être venu. Je suis aujourd'hui là pour vous parler des systèmes de gestion distribuée de versions, plus précisément sur Mercurial, parce que bah, il fallait quelque chose qui avait un rapport avec Python, et j'ai trouvé que celui-là. Donc, comme Marc, pardon? Oui, mais j'y reviendrai après, notamment dans les questions sur pourquoi je ne l'ai pas choisi, parce que je compte faire 20 minutes de présentation et une demi-heure de discussion sans fin sur des trucs inintéressants, notamment. Le choix des systèmes de version. Donc, comme marqué sur le tableau, je m'appelle Michael Scherrer, je suis développeur, je fais du Python et du PHP. Et il y a quelques temps, voyant que tout le monde parlait des systèmes de gestion distribuée, je me suis dit que ce serait vachement intéressant de parler de ça, plutôt que de parler de ce que je fais à mon boulot. Donc, voilà le plan. Grosso modo, je vais d'abord parler des historiques, présenter les concepts, comment ça a commencé d'abord avec aucune gestion de version quand on était à la fac, quand on se filait les fichiers par mail, comment est-ce qu'ensuite on a découvert qu'il y avait des outils un peu plus évolués, des outils centralisés, des outils distribués. Je vais présenter donc les concepts et finalement terminer sur l'utilisation de Mercurial. Alors, tout d'abord, le premier système qui a existé, c'est RCS. Dans les années 70, à l'époque où il y avait les hippies, ce genre de choses. Et c'est un système qui pouvait gérer un fichier et un utilisateur. Alors, c'est pas super pour la collaboration, comme vous pouvez vous en douter. Le seul avantage qu'il y a, c'est qu'il est présent maintenant partout, parce que dessus, c'est l'outil de base pour CVS. CVS, qui est un outil que tout le monde doit connaître, au moins parce qu'on sait que c'est le truc qu'il faut éviter. Donc, CVS se base sur RCS, il fonctionne en réseau. Il fonctionne avec plusieurs utilisateurs et surtout il fonctionne avec plusieurs fichiers, ce qui fait qu'on peut gérer des projets de taille phénoménale, genre deux fichiers. Le seul avantage qu'il a, c'est qu'il est présent sur tous les Unix, qui fait partie de la norme POSIX. Et j'ai découvert par exemple que sur mon Mac, il y avait CVS pour ce genre de raison. Et donc, comme je dis, là, je commence à se faire un peu sentir. Et il y a à peu près 10 ans, des gens se sont dit, bon, bah, les idées sont bonnes, mais on va refaire ça de zéro. Et ils ont mis au point un système qui s'appelle Subversion, avec un superbe jeu de mots que tout le monde a remarqué. Donc Subversion, c'est fait par les auteurs de CVS, mais d'après eux, correctement. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. C'est un système extrêmement populaire, dans le sens où je pense que si je fais un sondage à main levée, il n'y a pas grand monde qui va me dire « je n'ai jamais entendu parler de ça », et on va le faire, qui n'a jamais entendu parler de Subversion, à part les deux qui étaient... enfin bon, donc visiblement, tout le monde a entendu, à part mes collègues. Je pense que c'est un système qui est compris par tous, avec des concepts simples, où tout le monde envoie ses modifications et sur un truc centralisé, avec enfin, des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir, pour regagner un peu de temps. Bon, le truc, c'est que c'est bien beau, mais tout ça, c'est centralisé. Et il y a à peu près 5-6 ans, des gens ont commencé à expérimenter avec une autre approche, une approche distribuée. Donc, il y a d'abord eu une première vague de gestionnaires de versions distribuées. Il y avait Darks, TLA, Monotone, bon, vous savez lire aussi bien que moi. Dark, ça a apporté pour la première fois le concept de patch, qu'on pouvait changer d'ordre, qu'on pouvait appliquer sur un dépôt et pas sur un autre, ce qui permettait une certaine souplesse dans la gestion. TLA a apporté la complexité. Tous ceux qui ont déjà utilisé verront de quoi je parle. Les autres, c'est pas la peine de chercher, vous avez sûrement mieux à faire. Monotone a expérimenté avec le concept de signature des changements, pour être sûr que si quelqu'un fait un changement et qu'on le déplace dans un autre dépôt quelque part dans le monde, ce changement, on arrivera à retracer l'origine avec des signatures cryptographiques et ce genre de choses. Et finalement, le dernier de la liste, SVK, a été créé parce que le développeur principal voulait bosser sans être connecté au réseau parce qu'il a remarqué que traîner sur IRC, ça fait perdre du temps. Aller voir XKCD, ça fait perdre du temps. Discuter, ça fait perdre du temps. Donc il voulait bosser à un endroit sans le réseau, mais tout en accédant à son dépôt principal, qui lui était en réseau. Donc il y avait un problème à résoudre et il l'a résolu avec SVK. Et donc ça, c'était la première vague. Ces systèmes sont encore relativement utilisés, mais ils souffrent de plusieurs problèmes. Monotone et Darks sont lents. TLA, bon, bah, je pense que j'ai dit assez de mal, c'est pas la peine d'y revenir. SVK manque de fonctionnalités et commence à être plus très développé à mon sens. Ils n'ont pas sorti de version depuis longtemps. Et c'est pas principalement parce qu'il y a eu une deuxième vague. Donc des systèmes comme Git, qui a été créé par Linus Torvalds pour gérer le noyau, des systèmes comme BZR, qui était à la base une réécriture de TLA en plus simple, dans la mesure où c'était dur de faire plus compliqué, et qu'ils ont finalement réécrit complètement de zéro dans un autre langage avec d'autres commandes, une autre doc et un autre nom. Et il y a, pour finir, Mercurial, qui est le système que je vais présenter, qui a été créé en même temps que Git, pour à peu près les mêmes raisons, mais qui a percé, mais pas aussi bien que Git, et qui, lui, comme vous le verrez, est écrit en Python. Et donc, il y a plusieurs concepts à comprendre par rapport au système centralisé. Vous avez tout d'abord le concept de révision unique. L'idée, c'est que si quelqu'un fait un changement quelque part dans le monde, il faut que la révision soit unique dans le monde entier. On pourrait même rajouter la galaxie et l'univers, mais bon, on n'a pas encore de liaison réseau avec Mars, je ne peux pas vérifier. Et donc, l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir un numéro révision 1, 2, 3, 4, c'est d'avoir en général quelque chose comme une somme SHA1 ou MD5 qui est garantie pour être unique. Comme ça, vous pouvez identifier quand le patch est passé d'un endroit à un autre que finalement, c'est le même. Et du coup, bon, il y a un seul problème, c'est que ça fait des numéros de révision accouchés dehors, des trucs une ligne complète de 15 caractères qui veulent rien dire. Et en général, ça gêne les gens. Mais il y a une très bonne raison et on ne peut pas faire autrement. Il faut comprendre également que dans Subversion, dès que vous faites une modification, tout le monde y a accès. Vous faites un commit, c'est entièrement publié pour le monde entier, sauf système particulier, mais en général, c'est publié pour votre équipe. Tandis que là, avec un système distribué, c'est uniquement publié en local, et vous pouvez faire 15 000 modifications jusqu'à ce que vous trouviez la bonne. Si vous voulez commiter une ligne par une ligne, vous pouvez. Et une fois que c'est bon, que c'est prêt, vous pouvez l'envoyer, le publier, comme étant un seul changement. Et ça, c'est quelque chose qui change beaucoup la façon de voir, parce qu'on se retrouve à faire très régulièrement des commits pour pouvoir revenir en arrière, pour pouvoir savoir ce qu'on a fait, plutôt que de préparer la chose, d'être sûr, de vérifier que ça compile, de vérifier que ça casse rien, et de l'envoyer. Ce qui fait que l'historique, on peut plus facilement revenir dans l'historique, et je trouve que ça apporte un certain confort d'utilisation qui est non négligeable. Alors bien sûr, ça permet également, comme je disais, de faire des historiques non linéaires, c'est-à-dire, on va prendre quelqu'un dans la salle, par exemple, le monsieur en t-shirt noir, là, qui se retourne, il prend mon dépôt, il commence à faire ses changements. Je prends le dépôt, je fais mes changements. Quand on les mémorise, on se retrouve avec quelque chose, avec un arbre de changement non linéaire. D'un côté, c'est parti vers ses changements, de l'autre, c'est parti vers le mien. Et quand on remet les deux, on n'a plus une ligne, on a un arbre. Je laisse les gens intéressés par la théorie regarder ça. Comme le disait un de mes collègues, finalement, c'est simple, une fois qu'on a compris que c'est un graphe acyclique. Je ne sais toujours pas ce que c'est, mais bon. Et finalement, ça permet de faire ce qu'on appelle du cherry picking. C'est prendre juste un morceau de patch et savoir d'où est-ce qu'on l'a pris et éviter de le récupérer deux fois ou d'avoir des conflits parce qu'on a pris le patch. Et quand on essaye de le reprendre une deuxième fois, il dit « Ah bah ce patch-là est déjà appliqué, qu'est-ce que je fais ?» Il s'aperçoit que le patch est déjà appliqué parce qu'il a un identifiant unique dans le monde et il sait que le patch est appliqué, il fait rien, il réagit intelligemment. Avec un système non distribué, vous pouvez pas parce que typiquement, il ne gère pas cette notion d'identifiant unique. Et je pense que tous les gens qui ont déjà utilisé Subversion, qui ont fait des merges, pourront confirmer, c'est un peu le merdier. Et donc, tout ça, maintenant que vous avez tous maîtrisé parfaitement, maintenant que vous maîtrisez parfaitement les concepts, j'espère, on va passer aux avantages. Donc, le premier avantage, c'est que vous voulez contribuer sur un projet, vous n'avez plus besoin de demander le droit de commit pour travailler confortablement. Vous prenez par exemple un petit projet, le noyau Linux, vous le prenez, vous commencez à faire votre patch, et vous pouvez committer comme vous voulez, vous n'avez pas besoin d'envoyer quoi que ce soit à personne, vous travaillez de la même façon que les développeurs le font. Vous avez la même facilité, vous avez accès à un système de gestion de version, vous pouvez revenir en arrière, et tout ça. La seule différence, c'est que personne ne sait que vous avez fait vos modifications, il faudra quand même les envoyer. Mais par rapport au système, par rapport à la méthode précédente où vous prenez et puis vous notez les modifications et puis vous les refaites à chaque fois, c'est beaucoup plus pratique. C'est comme si vous étiez développeur, modulo le problème de diffusion. Ça vous permet également de bosser en privé, c'est-à-dire si vous voulez faire une modif pour un client et que le client n'a pas besoin de renvoyer ça au développeur de base, par exemple il veut changer la couleur de fond. Il n'aime pas le rouge, il veut du bleu. Vous savez pertinemment que le développeur de base, il n'aime que le rouge et jamais il acceptera le bleu. Vous faites une modification et toutes les modifications sur le projet faites par le développeur originel pourront être récupérées sans problème. Vous avez votre fork à vous, de côté, avec une très grande facilité. Alors, quelquefois, ça se justifie, quelquefois, ça ne se justifie pas. Je laisse le débat pour les slides suivants. Alors ça permet de bosser sans accès au réseau, par exemple au milieu de la Moselle, comme je le fais régulièrement. Et bosser sans accès au réseau, c'est quand même pratique, parce que dans le TGV, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a des gamins qui crient, mais bon. Et bosser sur le réseau, ça permet de bosser à des endroits où on est au calme, où on n'est pas dérangé, à des endroits où il y a des problèmes, quand on est par exemple quelque part au Brésil ou dans des endroits où la connectivité est très mauvaise, c'est extrêmement appréciable de pouvoir bosser sans avoir besoin d'une connexion correcte. Ça permet de bosser quand votre serveur principal est tombé, parce qu'il fait super chaud et que le disque a sauté. Je sais hélas malheureusement ce que c'est. Et en bonus, comme il n'y a pas de réseau, en fait comme on ne dépend pas du tout du réseau, c'est plus rapide. Aller chercher une information sur le réseau, ça doit être 10 à 100 fois plus lent que d'aller la chercher sur le disque. Ce qui fait que les outils en général sont beaucoup plus réactifs. Et qui dit beaucoup plus réactif dit que au lieu d'avoir une heure pour faire un changement, comme c'est le cas sur le CVS d'OpenOffice, pour des gros changements, vous le faites immédiatement. Ce qui fait que bah, vous le faites plus souvent, vous faites des commits, vous faites des diffs, vous perdez globalement moins de temps. Ça a l'air de rien, mais si vous perdez 5 secondes à chaque fois que vous faites une commande, si vous comptez que vous en faites des milliers chaque jour, vous vous retrouvez à avoir un gain de productivité non négligeable à mon sens. Et finalement, bah, la procédure de backup est grandement simplifiée, vu que toutes les personnes qui vont faire un clone de votre dépôt vont avoir une copie exacte de votre dépôt. Donc la procédure de backup, c'est simplement faire un clone du dépôt. Et quand vous faites un clone, bah, ça va très vite, c'est optimisé pour ça. Je sais qu'avec Subversion, sur certains projets sur lesquels je travaille, ils ont commencé à avoir des problèmes de gestion des changements, parce que le dépôt devenait trop grand, ça prenait trop de temps, ça prenait trop de mémoire. Bah, tandis que là, ça prend 5 minutes, vous faites un update à chaque fois et c'est bon. Sans compter que vous n'êtes même pas obligé de faire les backups, vu qu'il y a toujours des gens qui vont contribuer à votre projet et ce genre de choses. Enfin, il ne faut pas trop y compter. Alors, ça permet finalement, et c'est le principal avantage, j'espère que vous en serez convaincus après la fin de la présentation, de choisir un workflow, ça ne me plaît pas trop, mais ça permet de choisir le workflow de votre choix. Si vous voulez que tout passe par une seule personne, vous pouvez. Si vous voulez que ce soit géré par un groupe, vous pouvez. Si vous voulez que ce soit l'anarchie totale, vous pouvez. Et chaque développeur peut choisir la façon dont ils s'organisent, vu qu'ils ont tous quasiment les mêmes droits, ils peuvent tous committer sur leur dépôt local. Vous n'imposez rien à personne. Ce qui du coup fait que vous n'avez rien à gérer à ce niveau-là quasiment. C'est également non négligeable. Alors bien sûr, tout ça, il n'y a pas que des avantages, il y a également des problèmes. Même si les problèmes que j'ai présentés sont pour la plupart juste des problèmes perçus et pas des vrais problèmes. Alors le premier problème, bien sûr, c'est la complexité. C'est les gens vont commencer à mettre à faire chacun des modifs de leur côté, et certains vont se dire bon bah je fais les modifs et basta. Faut pas oublier de les remonter sur un serveur central ou communiquer avec les autres. Sinon ça devient très vite un bordel sans nom. Je vais pas donner d'exemple de projet parce que bon, ce serait pas sympa, mais les gens qui seront intéressés pourront venir me voir après et je leur montrerai des projets qui effectivement ont à mon sens dégénéré à ce niveau-là. Il y a le fait que ça facilite le fork. Les gens peuvent se dire bah voilà, avec ça j'ai plus le contrôle de mon projet, n'importe quelle boîte, n'importe quelle personne peut le prendre, avoir l'historique, puis dire bah maintenant je fais ça, je change tout et voilà. Et je pense que c'est une mauvaise raison. Déjà, plusieurs fois, on a été extrêmement content dans le monde du logiciel libre d'avoir des forks. Par exemple, quand les gens de X-Free ont commencé à déconner sur tout ce qui concernait la licence, on a été content que des gens puissent forker et faire Xorg. On a été content que les gens puissent forker GCC pour faire EGCS. Et d'une manière générale, considérer qu'on devrait interdire le fork, c'est comme considérer qu'un couple ne devrait pas se séparer à cause des liens sacrés du mariage. C'est s'il y a un problème, bah, je suis désolé, faut faire quelque chose. Alors, il y a le problème également de la consommation disque. C'est que, comme vous vous retrouvez à récupérer entièrement l'historique, il y a des choses qui ne sont pas faciles à stocker, par exemple des images. Et typiquement, si vous avez un projet avec beaucoup d'images, bah, le dépôt va exploser et vous allez vous retrouver avec des problèmes de place. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de Mozilla, mais j'imagine que c'est le genre de... c'est typiquement les images, les fichiers binaires. Pour tout ce qui est texte, c'est très efficace en général. Pour ce qui est pour des fichiers qui ne changent pas beaucoup et où on est obligé de les stocker entièrement, ça devient très vite l'horreur. Donc, si vous avez beaucoup d'images de votre projet, si vous stockez des vidéos, n'utilisez pas des systèmes de gestion distribuée, ça va être le bordel. Ou alors, prévenez-moi, j'ai racheté des actions Maxtor pour les disques durs que vous allez devoir acheter. Et le dernier problème, c'est le manque d'intégration. Si vous prenez Subversion, vous avez des outils comme Track, vous avez tout un tas d'outils dans tous les sens, l'intégration dans Eclipse, dans tous les IDE. C'est très peu le cas encore, même si c'est en train de changer. Mais Dieu merci, ça n'a pas changé assez vite pour que je retire cette diapo. Et vous n'avez pas l'intégration dans les outils externes. Ouais. Et ça peut poser problème si vous avez des développeurs qui les utilisent fortement. Je vous conseille de regarder avant de choisir un outil, bien évidemment. Alors, donc, tout ça m'amène finalement maintenant que vous êtes tous convaincus des avantages des systèmes distribués. Je vais vous parler de Mercurial. Alors, Mercurial est un logiciel écrit en Python, la principale raison pour laquelle je le présente. Il a été commencé en 2005, à peu près en même temps que Git, au moment de l'histoire où Linus a décidé d'arrêter d'utiliser BitKeeper et passer à son propre système qu'il a écrit en une semaine. Il a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Matt McCall, que j'ai jamais vu, ni en présentation, ni quoi que ce soit. Je ne pourrais pas vous dire à quoi il ressemble. J'ai même eu du mal à trouver son nom. Le logiciel est à sa version 1.0 et contient 30 000 lignes de code, ce qui fait pas mal, en comptant qu'il y a beaucoup d'extensions fournies avec. Et il est utilisé par certains gros projets, par Mozilla, par OpenSolaris, qui sont quand même des projets d'envergure, par des projets plus petits, comme Scapy, comme Alza. Et... par Xen, vous avez une liste complète sur le wiki si quelqu'un veut des références, si vous avez besoin de convaincre votre chef, si cela ne suffit pas. Et il s'adapte aussi bien aux gros projets qu'aux petits. Et pour commencer, donc, nous allons prendre un exemple tout simple. Une personne avec un seul ordinateur, en local, pas de collaboration ni quoi que ce soit, rien de compliqué. Vous allez gérer votre liste de courses, par exemple. Donc, vous allez commencer par faire votre dépôt. Donc, vous créez un répertoire et dedans, vous utilisez la commande hginit, qui va bêtement initialiser le dépôt, dire voilà, ça c'est un dépôt, je vais créer un dossier .hg, et dedans tout va se passer. Alors si vous trouvez que... faut pas l'effacer, c'est vachement important. Faut comprendre qu'avec un système distribué, votre répertoire de travail contient également les informations du dépôt. Si vous l'effacez, vous l'avez dans l'os. J'espère que ça c'est clair. Je veux dire, c'est pas ça prend de la place. Oui, ça prend de la place, c'est le dépôt. C'est normal. Donc dedans, vous rajoutez votre fichier toto.py, comme avec Subversion, tout bêtement, et vous faites un commit. Il va vous demander de taper un message, ajout de toto.py, projet initial, ou ce que vous voulez, de la poésie, n'importe quoi. Et c'est tout. Comme vous voyez, c'est pas extrêmement plus dur que Subversion. En fait, c'est même, je pense, plus facile, vu que vous n'avez pas besoin de faire le dépôt à part hginit. Et ensuite, vous pouvez revoir tous vos changements avec une commode comme hglog, qui correspond à la commode svnlog, de Subversion, la commode cvslog. En fait, d'une manière générale, ça ressemble vachement à CVS et Subversion. Et donc là, vous pouvez voir. Alors, vous avez d'autres commandes pour revenir en arrière et pour faire des diffs, mais je pense que je vais les laisser en exercice. Faites gaffe, je ramasserai la semaine prochaine. Et donc maintenant, si on commence à compliquer un peu les choses, vous avez deux machines. Vous êtes un gosse de riche, vous avez un portable plus une machine, mais vous n'avez pas la connexion Internet complète. Et vous vous êtes dit, oh, c'est vachement bien, j'irai bien en Moselle pour bosser tout seul, comme il m'a dit, je suis vachement convaincu. Donc vous prenez le TGV, vous allez en Moselle, et vous apercevez que vous avez oublié une chose, c'est de récupérer le dépôt. Donc vous prenez le TGV pour revenir, et vous faites ce qu'on appelle un clone. Vous faites AG clone, suivi de... Alors là j'ai pris SSH, vous pouvez y accéder par HTTP, par d'autres méthodes, mais on va partir du principe que vous avez un accès SSH sur votre machine. C'est SSH, l'adresse IP de la machine, suivi du chemin vers le projet. Et vous allez vous retrouver avec une copie complète, un clone, de votre dépôt qui a exactement les mêmes caractéristiques que l'autre, sur lequel vous pouvez committer ce genre de choses. Et donc vous repartez pour aller travailler. Oui, voilà. Et de la même façon, quand vous voulez committer, vous faites un commit. Et ça sera sur votre dépôt local. Donc vous revenez chez vous et vous vous apercevez que sur votre machine principale, la grosse de tout à l'heure, vous n'avez pas vos modifications. Et c'est normal parce que les modifications par défaut se font en local et il faut synchroniser avec deux commandes, suivant le sens dans lequel on le fait. Alors il y a push pour aller du portable vers le fixe et pull pour faire de l'autre côté. Enfin pull, mais bon, j'ai pas un très bon accent anglais. Je connais des amis qui vont m'engueuler à cause de ça. Et donc, vous pouvez, avec ça, faire passer les changements d'une machine à une autre. indépendamment de laquelle était la première ou quoi que ce soit de ce genre. Alors il faut faire gaffe à le faire très régulièrement, sinon vous allez vous retrouver avec des problèmes comme « Oh bah j'ai fait le changement il y a 3 semaines, et entre-temps tout a changé, je suis obligé de tout refaire à la main et ça va me prendre du temps ». Non, il faut le faire dès que possible pour éviter justement de, pour éviter que ça dégénère. C'est un point extrêmement important, sauf si vous avez de bonnes raisons, sauf si vous voulez de toute façon tout casser, auquel cas vous travaillez de côté et puis dès que c'est prêt, bah c'est prêt. Et bon, là vous êtes encore tout seul, vous arrivez à gérer. Maintenant, si on imagine quelque chose comme ça, genre une centaine de personnes, donc à partir de 2 personnes c'est déjà beaucoup, et que chacune a 2 ordinateurs ou plus. À partir de là, vous ne pouvez pas commencer à tous vous mettre dans une salle et vous mettre d'accord sur ce qu'il faut faire, chose que vous pouviez faire quand vous étiez tout seul, mais là ça devient déjà autre chose. Et c'est là que deviennent intéressants les systèmes de gestion distribués, parce qu'en fait, vous pouvez bosser. Vous pouvez bosser et vous pouvez. Vous avez plusieurs méthodes de publication. C'est-à-dire, si vous voulez partager par SSH, vous pouvez, comme j'ai fait tout à l'heure. Vous pouvez partager par HTTP, par HTTP ou par un serveur dédié. Enfin, techniquement, vous avez le choix de la méthode de. D'accès et ce genre de choses. Et le fait d'avoir le choix permet également d'avoir plusieurs contrôles d'accès. Si par exemple vous le faites par HTTP, tout le monde aura accès quasiment pour peu qu'il ait l'accès au serveur. Si vous le faites par SSH, vous pouvez identifier les gens. Si vous le faites avec le protocole dédié de Mercurial, vous avez une gestion interne de Mercurial. Donc déjà là, vous avez un choix à faire sur la façon de publier. Et vous avez surtout un choix à faire sur la façon dont les patchs vont être intégrés. C'est... qui décide de quel patch vont venir, comment, avec quelle commande. Donc vous avez toujours hgpull, hgpush, et vous avez une commande pour merger les changements. C'est-à-dire si 2 personnes font des changements et que les changements sont contradictoires, quelqu'un doit dire, bon bah voilà, le résultat de ces 2 changements, c'est ce 3e changement-là. C'est ce que fait la commande hgmerge. Et pour tout ça, il faut savoir qui dirige. Il y a forcément, dans une équipe, il y a toujours une organisation. Sinon, ça s'appelle pas une équipe, ça s'appelle de l'anarchie, le bordel ou n'importe quoi. Et cette personne, alors vous avez plusieurs modèles. Vous avez le modèle de base qu'on retrouve dans la plupart des projets avec une équipe, une core team, qui décide indépendamment. Chaque personne peut décider ou non de ce qui est mis dans le dépôt principal. Donc par exemple, on dit que les 5 codeurs principaux du projet sont ceux qui sont chargés d'aller chercher les patchs chez les autres et de les mettre sur un dépôt qu'on estime étant le dépôt de référence. Et ce dépôt de référence est celui sur lequel tout le monde va aller chercher ses clones pour que tout le monde bosse sur la même chose. Je pense que ça, c'est le modèle à peu près qu'on voit avec Subversion, où effectivement, il y a un dépôt centralisé. Vous avez des modèles un peu plus hiérarchiques. Vous avez le noyau Linux, où vous avez une personne, Linus. Bon, c'est pas une photo de Linus, c'est une photo d'Alion. Mais... qui va chercher des patchs chez des personnes qui sont en dessous de lui, par exemple le responsable de la pile réseau, David Miller, le responsable des patchs sécurité, le responsable des patchs USB, et ces personnes-là communiquent avec d'autres personnes qui sont intéressées par ça et récupèrent les patchs. Vous vous retrouvez avec une hiérarchie arborescente qui, curieusement, fonctionne, malgré le fait que ce soit extrêmement compliqué. Et tout ça se base sur la réputation, parce qu'il y a des centaines de personnes qui travaillent sur le noyau, mais il ne peut pas y avoir une personne qui les connaît toutes. Donc c'est en étage. Et vous avez également des occasions où c'est complètement décentralisé. Par exemple, ce que doivent faire peut-être les gens à côté sur le sprint, c'est on prend le projet, chacun bosse, et à la fin on décide. Mais pendant ce temps, c'est entièrement en peer-to-peer où chacun discute, échange les patchs avec quelqu'un d'autre. Et c'est, je pense, assez courant dans ce genre de réunion de bosser comme ça. Et ce genre de choses, on peut également les faire avec des systèmes distribués, mais on ne peut pas les faire, par exemple, typiquement avec des systèmes centralisés. Parce que chacun devrait avoir son dépôt centralisé, où tout le monde devrait mettre au même endroit, et à un moment, on commence à se marcher sur les pieds. Et pour finir, une fois que vous avez décidé de la façon dont vous organisez votre équipe, vous mettez en place l'organisation, et vous pouvez passer aux trucs qui sont bien, donc ce que j'ai intitulé les « cool stuff ». Principalement pour Mercurial. Donc vous avez tout d'abord le fait que les systèmes distribués permettent de faire beaucoup de branches. Et je pense que ça, c'est la principale raison de les utiliser. C'est que vous voulez travailler sur 2 trucs en même temps. Avec Subversion, vous êtes obligé de faire quelque chose sur le dépôt, ce genre de choses, et ça ne marchera peut-être jamais. Et qu'il faut demander l'avis de l'admin, etc., etc., et que ça pollue le dépôt. Là, vous prenez votre dépôt, vous faites ce que vous voulez dessus. Vous voulez que tout d'un coup bosser sur le site web et mettre à dégrader, même si ça prend 3 semaines, vous pouvez bosser sur ça. Vous avez tout votre développement sur intégration du dégradé. Et à côté, vous avez une branche de développement sur les correctifs de bugs et une branche de développement sur passage à PHP X ou passage à Python de préférence. Et le fait qu'il y ait beaucoup de branches fait que les gens réfléchissent différemment. Moi, personnellement, quand je fais des branches pour chaque bug fix ou chaque truc sur lequel je travaille. Ça me permet de faire beaucoup, beaucoup de commits et ça permet d'éviter de... Enfin, je me sens beaucoup plus à l'aise parce que je sais que quand je fais un gros changement, si je fais juste une erreur, je peux revenir en arrière, regarder si c'était le changement que j'ai fait et pas avoir à chercher dans les 10 000 lignes que j'ai changées. Vous avez un système de hook, comme dans Subversion, où quand vous recevez un patch, vous déclenchez une action. Quand vous envoyez un patch, vous déclenchez une action. Vous pouvez interdire les commits. Si par exemple, vous recevez un patch, vous voyez que ça ne compile plus, vous interdisez, vous empêchez le truc d'aller plus loin. Et c'est notamment très utilisé pour les quand vous avez mis en place un workflow plus ou moins centralisé. Vous pouvez avoir un dépôt sur lequel tout le monde envoie les modifications. Ce dépôt-là vérifie que tout commit, vérifie que les tests passent avant de les envoyer au dépôt de référence. Ce qui fait que votre dépôt de référence est techniquement toujours en état. Je dis techniquement parce que bon, on peut pas non plus faire des logiciels sans bug, sinon on serait tous au chômage. Dieu merci. Et donc tout ça fonctionne avec un système de hook. Alors les hooks peuvent être des programmes externes ou des fonctions Python fournies dans des modules. Il y a certains modules qui sont fournis de base. Par exemple, un module pour envoyer, pour fermer des tickets Bugzilla, un module pour les pour mettre des ACL et ce genre de choses. Et tout ça fait partie du système d'extension de manière plus générale. Le système d'extension, lui, rajoute des commandes. Une commande qui est rajoutée, c'est la commande, par exemple, bisect. Vous prenez votre projet, vous voyez qu'il y a un bug, et vous savez que le bug peut être reproduit facilement. Donc vous commencez votre bisection, je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais bon. Et vous dites, bah voilà, je pense que la modification a été faite entre aujourd'hui et il y a 3 mois. Donc il va vous mettre quelque chose entre les deux. Par exemple, il y a un mois et demi, puis vous compilez, vous regardez, le problème est-il présent ? Oui, non. S'il est présent, il va essayer de chercher par dichotomie. Il va chercher il y a moins de 3 semaines, il y a 1 semaine. Et à la fin, en une dizaine d'itérations à peu près, vous aurez retrouvé le problème. Et ça, c'est principalement parce que les outils sont extrêmement rapides, ce qui fait que faire des recherches va beaucoup plus vite. C'est quelque chose qui a été popularisé par Git, qui est à mon sens très utilisé par les gens du noyau pour repérer les régressions. Sans ça, vous seriez obligé de passer sur tout l'historique depuis 3 mois, d'essayer de deviner à quel moment ça a commencé à partir en sucette. Et supposons que vous avez 300 révisions, qu'il vous faut 5 minutes pour regarder ça, je vous laisse faire le calcul, il faut du temps. Vous avez des extensions qui permettent donc de récupérer les patchs, des extensions qui permettent de faciliter les commandes, des extensions qui permettent d'apporter depuis Subversion. Ce qui fait que vous avez un projet qui travaille avec Subversion, mais vous n'avez pas envie. Vous êtes un rebelle, vous dites « bon, je ne vais pas réussir à les convertir, j'ai aucune chance de les menacer ou de les faire chanter. » Je vais utiliser une solution plus propre, qui est l'import des dépôts Subversion directement dans Mercurial. Et vous vous retrouvez avec un dépôt Mercurial, vous travaillez dessus comme vous voulez, et quand vous voulez envoyer le patch, vous faites un patch, vous l'envoyez. Alors il y a plusieurs méthodes, il y a une doc très complète sur Subversion, sur Mercurial, qui présente ça. Il y a des méthodes qui me semblent un peu pas très propres. Il y a une méthode avec un programme qui s'appelle HGSVNImport, que je vous invite à regarder sur Google, sur Yahoo, sur le moteur de recherche de votre choix. Et je pense que j'ai présenté tous les trucs que je voulais présenter. Est-ce que quelqu'un a des questions ? J'espère que oui, parce que j'avais prévu que ça dégénérerait. Oui, le petit monsieur avec le t-shirt Python.
Je vais commencer par moi, tiens, pour une fois. Je voulais savoir le défaut de SVN, qui peut être un avantage, c'est que justement, quand il y a un conflit, quand deux personnes travaillent sur le même code, et comme il n'y a qu'un seul dépôt, ils s'en aperçoivent tout de suite. Dans ce que tu as présenté, ce qui est assez intéressant, c'est effectivement on peut créer des branches très facilement, mais ce qui veut dire que comme on peut faire une branche d'un code particulier, on peut très vite bosser dans son coin sans prévenir personne et s'apercevoir au bout de 2 semaines que finalement on a fait le même boulot que son voisin. Comment justement on gère ce genre de problématique ?
Ben, c'est pour ça que je recommandais de faire des updates très réguliers. Alors, effectivement, il y a certains. Je ne dis pas que bosser à distribuer soit adapté pour tout le monde. Effectivement, si tu commences à avoir chacun qui bosse dans son coin pendant un an, bah, c'est la fin des haricots. Et sans haricots, pas de cassoulet. Et c'est pas bon. Et effectivement, il faut synchroniser très régulièrement. Et il faut avoir. Si tu travailles avec. Dans tous les projets, il y a toujours un projet de référence. Le projet va être publié. Il faut bien savoir ce que tu publies. Et il faut très régulièrement synchroniser par rapport à ça. Il faut communiquer beaucoup. Et c'est pour ça que les gens qui ont peur de se dire que ça fork, que ça facilite les forks, bah, c'est faux. Si tu commences à faciliter les forks, il y a les problèmes dont tu parles avec les gens qui ont des modifications et que s'ils ne les publient pas, bah, c'est leur faute. Il n'y a rien pour corriger ça, à part suivre de bonnes pratiques qui sont de synchroniser régulièrement. Est-ce que ça répond à la question?
Pour répondre à une optique un peu différente à la question qui vient d'être posée, tu as ce bénéfice dans Subversion quand tout le monde travaille sur la même branche, commit sur la même branche, et en général, cette branche, c'est la branche qu'on va utiliser pour faire les releases. Le problème avec cette approche, c'est qu'on a une branche de release dont la qualité descend quand tout le monde est en train de hacker dessus et remonte au moment où on veut le stabiliser. Quand tu travailles avec un système de contrôle de version décentralisé, la descente de qualité que tu peux avoir pendant le développement a lieu dans des branches qui sont individuelles. Et ce qui est intégré dans la branche principale sont des choses qui sont complètes. Ça veut dire, et ça permet d'avoir une intégration continue dans ta branche de release qui t'assure une qualité qui est meilleure. Donc, et en parallèle à ça, une chose qui fait peur aux gens qui veulent utiliser les systèmes de gestion de configuration décentralisés, c'est effectivement, ils ont peur de la complexité. Ils se disent, c'est facile de faire des branches.
Oui, c'est facile que ce soit le bordel, hein, je confirme.
Moi, j'ai commencé à utiliser Subversion récemment, après avoir utilisé GnuArch et Bazaar depuis des années.
Désolé.
On n'a dit pas de troll. On pourra troller ensemble après. Et ce que j'ai découvert dans Subversion, en fait, c'est très facile de faire des branches. Mais ce qui est horriblement difficile, c'est de faire des merges. Et qu'en fait, même quand les gens ne font pas des branches explicites dans Subversion, à chaque fois qu'ils font un checkout, ils font une branche. Ils ont en fait une branche dans laquelle ils n'ont pas le bénéfice du contrôle de version à leur usage principal. Ils peuvent faire un commit que pour l'intégrer dans la branche partagée. Quand ils utilisent des systèmes de gestion de configuration décentralisés, ils peuvent faire des commits perso et ils peuvent en plus faire des commits sur la branche partagée grâce à la fonctionnalité de merge. Donc, les systèmes de gestion de configuration décentralisés, au contraire, favorisent la convergence parce qu'ils ont des fonctionnalités de merge qui sont très performantes.
Ah non, pas lui.
Bonjour. Je voulais savoir si ça ne va pas augmenter la fracture numérique entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Je pense en particulier à la consommation disque et également à l'usage de la bande passante lors du premier clone.
C'est une excellente question.
J'ai une question subsidiaire aussi. Je voulais savoir si tu avais des actions dans les disques durs ou si tu faisais partie d'un lobby pour les disques durs.
Alors effectivement oui, j'ai des actions dans les disques durs. Par contre, j'ai revendu toutes mes actions Cisco, parce que comme je l'ai expliqué, une fois que tu as fait ton clone principal avec un système distribué, tu récupères que les modifications. Donc quelque part, tu consommes moins de bande passante. Comme tu fais beaucoup de commits, bah, tu n'envoies que la grosse modification au lieu d'en envoyer plusieurs petites. Tu consommes moins de bande passante. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, ça consomme un peu plus d'espace disque. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les systèmes de gestion centralisés actuels ne sont pas économes du tout en espace disque. Tu prends par exemple un checkout Subversion, tu as d'une part le répertoire de travail, plus encore une copie vierge des fichiers. Ça prend deux fois la taille. Si tu prends un dépôt Git avec Git SVN, souvent il prend moins de place. Alors maintenant, ce n'est pas parce que c'est centralisé contre décentralisé, c'est parce que Git est extrêmement optimisé pour ça, qui prend peu de place et que bah, Subversion, ils ont considéré que les disques durs, c'était pas cher. Et c'est vrai, c'est pas cher. Ça me permet de rentabiliser mes actions. Et que comme ils sont pas chers, bah, ils ne se font pas préoccuper de ça. Donc, Techniquement, oui, ça devrait agrandir la fracture numérique, mais en pratique, non, parce que justement, bah, les systèmes de version actuelle sont limite pourris à ce niveau-là. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui. Bien, tu peux le télécharger bêtement, tu peux télécharger à Tarball, ça doit faire dans les 100 mégas. Alors effectivement, je pense qu'il y a certains projets qui permettent de ne pas récupérer entièrement l'historique. Je sais que BZR le fait. Je pense que Git doit le faire dans une version ou dans une version future. Et techniquement, il n'y a rien qui empêche de faire un checkout partiel. C'est juste que voilà, les gens font ça pour avoir des récupèrent tout et le font à dessein.
On va arrêter le ping-pong. Dernière question.
C'est une question à propos du serveur HTTP. Quand on fait hg-serve,
oui.
Ça sert sur HTTP, donc on peut faire un pull, mais on ne peut pas refaire un push dessus.
C'est une bonne question. Non. Bon,
est-ce qu'il y a d'autres serveurs HTTP pour Mercurial, par exemple,
qui permettent... Il y a un
CGI. Un SSH, ça, tu pushes en SSH, quoi.
Un CGI, ouais.
Oh, mais c'était si on voulait garder HTTP quand même, enfin, ne pas avoir HTTP pour pouler et SSH pour pusher.
C'est ça, les... Dans ce cas-là, tu es obligé de mettre en place un serveur Apache avec, en branchant le CGI.
D'accord, merci.
Bon, bah, 20 minutes de pause maintenant. Merci.